Bonjour, ici Bethléem Hickman et Michel Bédard. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Troisième Planète, magazine d'environnement et de société sur Sekaya 88.3. Alors aujourd'hui, on est le 4 et l'ouverture de la consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec. Donc cette consultation, tout d'abord, elle repose sur une analyse d'un document qui décrit la situation énergétique du Québec. Et puis, sur les bases de ce document, on demande à la population de réagir, soit par écrit, par dépôt d'un mémoire, ou de commentaires en ligne, ou de participer à une séance publique. Et puis, ce processus est piloté par une commission nommée par le gouvernement. Et pour nous en parler un peu plus aujourd'hui, on accueille Jacques Blanchet, conseiller stratégique pour Tactétique. Bonjour Jacques.
Bonjour Bethléem.
Alors, cette commission a été constituée avec un mandat qui est, je cite, de produire un rapport de consultation pour le gouvernement, lequel devra contenir des recommandations visant à définir des orientations en matière énergétique. Alors, on va commencer. Qui c'est qui fait partie de cette commission?
En fait, ce qu'on peut voir sur le site internet du ministère, c'est que deux personnes ont été nommées par le gouvernement. Il y a d'abord qui sont en fait les deux coprésidents de la commission. Il y a Monsieur Roger Lanoux, qui est un ancien de Hydro-Québec et qui est consultant en planification stratégique liée à l'approvisionnement en énergie. Et Monsieur Normand Mousseau, qui est un chercheur de renommée mondiale, apparemment, que je ne connais pas, mais qui doit être bien connu, dans le domaine des matériaux complexes et de la biophysique. Et c'est aussi un vulgarisateur scientifique. Alors, ce qui est important de préciser là-dedans, c'est le mandat de la commission. Le mandat de la commission est en quatre volets. D'abord, de faire un portrait de la situation actuelle en termes de consommation au Québec. Quelle énergie on consomme et dans quel secteur d'activité on la consomme. Ensuite, il y a l'analyse des enjeux. Donc, quels sont les enjeux majeurs qu'on va vivre au Québec ou qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre éventuellement? Et ceci en se basant notamment sur un peu ce qui se fait dans les autres pays à travers le monde. Et troisièmement, de faire la consultation. Et finalement, de faire le rapport, comme vous l'aviez si bien dit. Donc, ces éléments-là font partie du mandat de la commission. Ces gens-là ont été nommés par le gouvernement, donc c'est une décision basée selon les compétences, etc., etc.
Il n'y a que deux personnes?
Oui, en fait, il y a deux personnes.
Ils vont avoir du travail, là.
Oui, en effet. Évidemment, ces deux personnes-là sont engagées et c'est leur responsabilité d'aller chercher les équipes qui vont les aider à travailler là-dedans. Durant la consultation, il n'y a que les deux coprésidents qui vont être là, probablement avec des gens pour prendre des notes, évidemment. Mais ce ne sont que les deux coprésidents qui vont être présents durant les consultations.
D'accord. Donc, comme je l'ai dit, il y a un document, on appelle le document de consultation, qui a été rédigé, qui doit dresser le portrait finalement énergétique du Québec. C'est un document qui est très important parce que c'est là-dessus que les personnes vont réagir. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Il y a ce document-là de consultation qui était le premier volet du mandat de la commission. Donc, de faire les deux premiers volets qui étaient de faire le portrait de la consommation au Québec et d'aller chercher les enjeux en regardant un petit peu ce qui se fait à travers le monde. Mais il y a aussi d'autres documents qui sont en référence, qui sont disponibles aussi sur le site. Tout est disponible sur le site du ministère des Relations des Ressources naturelles, pas des Relations internationales, mais des Ressources naturelles, bien sûr. Donc, il y a des documents de référence, entre autres des liens avec des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, des rapports d'inventaire national sur les sources et puits de gaz à effet de serre, l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre et la liste des programmes d'aide financière en efficacité énergétique et le plan stratégique d'efficacité énergétique, énergie renouvelable et innovation technologique de Hydro-Québec. Donc, tous ces documents-là viennent en appui aux documents de consultation. Donc, on n'est pas obligé de les lire, mais c'est des documents qui peuvent nous servir pour étoffer notre point de vue lorsqu'on veut les présenter ou lorsqu'on veut discuter du sujet. Évidemment, avec ça, il y a des documents statistiques, donc vraiment qui viennent préciser dans le détail la consommation et la production et l'alimentation et la distribution d'énergie au Québec. Et un guide supplémentaire qui est un guide de réflexion. Qui est en fait une série de questions à se poser pour étoffer un peu la discussion et étoffer notre point de vue sur la question énergétique au Québec.
Finalement, C'est le socle, c'est la base, c'est la référence sur lequel on peut commencer à débattre, mais on peut aussi avoir une remise en question de ces notions de base.
Tout à fait, tout à fait. Et le ministère est quand même assez ouvert à ça. Quoique, ce qu'on voit dans le document, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait une consultation comme ça, on ne peut pas arriver avec une page blanche. Mmh. Bon, ça se fait, hein, cela dit, mais c'est beaucoup plus complexe, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus cher aussi, évidemment. Donc, le gouvernement... Au Québec, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire que on va présenter un document qui met la table et on part de ce document-là pour discuter. Évidemment, le gouvernement, en faisant ce document-là, a ciblé de façon très concrète les sujets de discussion qu'ils veulent avoir. Ça n'empêche pas d'en avoir d'autres, mais disons qu'ils veulent orienter le débat, ce qui est tout à fait normal, hein, cela dit, c'est pas péjoratif ce que je dis là, c'est juste pour s'assurer d'avoir des interventions qui soient pertinentes et qui vont dans la réflexion que le gouvernement est en train de faire.
D'accord. Donc, ce document est, comme tu l'as dit, déjà public. Mm-hmm. On peut, l'ouverture est aujourd'hui, donc dès aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, en fait, on peut déjà aller voir sur le site internet, c'est Consultation Énergie, si je me souviens bien. Bon, si vous allez sur un moteur de recherche,
consultationénergie.gouv.qc.ca.
Voilà, merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est évidemment aller voir les différentes façons qu'on peut intervenir dans le processus. Si je me souviens bien, bon, on peut, oui, déposer un mémoire. Donc, sans aller le présenter, tout simplement envoyer un mémoire, déposer un mémoire sur le site Internet. On peut déposer un mémoire et le présenter en commission, c'est-à-dire durant les séances publiques. On peut assister aux séances publiques, participer au débat lorsqu'il y a des périodes, parce qu'à chaque séance publique, il y a une période de questions et de discussions qui vient à la fin. Donc, on peut aller dans les séances publiques, assister et poser des questions ou émettre des commentaires. Et on peut aussi intervenir en ligne. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de consultation en ligne où on peut intervenir en tant que citoyen. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. On peut assister aussi en web diffusion à toutes les séances. Donc, il y a quand même plusieurs moyens pour un citoyen. Ces différents moyens-là impliquent différents niveaux, si on veut, d'implication. Mm-hmm. Hein? Ça n'a pas, évidemment, écrire un mémoire et aller le présenter. C'est quand même du travail, mais c'est possible. Et dépendamment du type d'implication qu'on veut avoir en tant que citoyen, ben on peut participer d'une façon ou d'une autre.
Ouais. Là, on a parlé des citoyens, mais bien sûr, c'est un gros enjeu pour les organismes environnementaux, puis aussi pour certaines entreprises pour lesquelles, qui travaillent dans le domaine de l'énergie, là, et pour lesquelles la politique énergétique va avoir forcément des retombées sur leur business.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est sûr que y a sûrement déjà un lobbyiste qui est très présent et qui est très actif pour influencer le débat, discuter, émettre des opinions, présenter plusieurs mémoires sous différents noms. Bon, il y a différentes...
Ah oui, il y a des stratégies,
ah,
vraiment.
Ah oui, oui, oui. Et je dis ça autant pour les entreprises que les groupes environnementaux utilisent cette stratégie-là pour mettre plus de poids à leur discours. Ils vont présenter la même opinion dans 3, 4 ou 5 documents différents sous différents noms.
Mm-hmm.
Donc, un même intervenant peut le présenter en tant que citoyen, peut le présenter en fonction d'un organisme environnemental ou d'un groupe de pression, peu importe, hein, c'est pas une somme environnementale.
Ah oui.
Un groupe de pression générique et le présenter sous plusieurs aspects comme ça.
Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit.
Ben, c'est des moyens qui sont utilisés pour faire valoir son point de vue.
Oui.
Évidemment, tous ces moyens-là prennent du temps, prennent de l'argent, prennent de l'investissement. Mais lorsque les enjeux sont suffisamment grands comme dans comme la politique énergétique du Québec, quand même, il va sûrement avoir... je dirais des tentatives d'influencer le discours de cette manière-là.
Ouais. Justement, tu as dit que ça allait avoir des conséquences pour l'avenir du Québec. Quelques exemples comme ça qui...
Oh! Ben, en fait, je veux pas supposer de ce qui va se retrouver dans la politique, bien sûr. Mais on pourrait voir, en fait, par exemple, si... parce que ce qu'il faut voir, c'est le titre du document aussi. Hein. Si je me souviens bien, attendez, je vais revoir dans mes notes. Le titre du document s'appelle le document de consultation de la réduction des gaz à effet de serre à l'indépendance énergétique du Québec.
Donc, c'est déjà bien ciblé, là.
C'est déjà bien ciblé et c'est déjà une opposition. Parce que l'indépendance énergétique du Québec présuppose une utilisation des hydrocarbures, des gaz de schiste, etc. Et tout ça va générer des gaz à effet de serre. Donc, Donc, un peu comme l'idée du développement durable, qui est deux oppositions ensemble, hein, développement et durable, ben là, on retrouve la réduction des gaz à effet de serre avec l'indépendance énergétique du Québec. Donc, ces deux éléments-là s'affrontent constamment. Mais en même temps, ce sont des enjeux de société et ce sont des enjeux mondiaux.
Ouais. D'ailleurs, on voit dans le document que les réponses sont souvent techniques et pas forcément une adaptation de comportement, mais plus une réponse par une solution, effectivement, technique.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est plus facile. C'est sûr que pour le document de consultation, ils vont arriver avec soit des technologies, le développement de nouvelles technologies, de solutions techniques comme l'électrification des transports.
Qui est un gros...
Qui est un gros morceau, effectivement. Ouais. Mais évidemment, l'électrification des transports, comme disait si bien M. Gaétan Lafrance, je pense, dans une entrevue à Radio-Canada, si personne n'est prêt à payer pour avoir une voiture électrique, on aura beau avoir 10 voitures électriques de disponibles pour une voiture à essence, s'il n'y a personne qui veut l'acheter, ça ne sert à rien. Donc, il y a aussi un aspect de changement de comportement qu'il faut impliqué là-dedans, donc. Et c'est un peu ça que vise la consultation. Il y a un texte fort intéressant qui est dans le discours, un peu le document d'ouverture du document de consultation, qui est un mot de la ministre, de Martine Ouellet, et qui dit un élément intéressant, fort, fort dynamique, et qui, je trouve, vient orienter, et pour moi, c'est vraiment un des paragraphes très importants de ce document-là. Je la cite. « Si la direction à prendre est assez facile à énoncer, l'approche à retenir pour atteindre ses cibles reste à définir. Comment utiliser les importants surplus d'énergie renouvelable dont dispose le Québec? Comment s'assurer que les industries québécoises utilisent toujours mieux l'énergie afin d'améliorer leur compétitivité à l'échelle internationale? Comment réduire l'électrification des transports? Quelle approche emprunter devant la possibilité que le sous-sol québécois recèle d'importantes réserves de pétrole? » Donc, évidemment, ces quatre questions-là sont majeures dans le document. Et tout le document est axé sur ces questions-là. Hein, c'est en fait, là-dedans, on a les quatre objectifs que le gouvernement veut donner en faisant dans la prochaine politique énergétique. Évidemment, lorsqu'il dit « si la direction à prendre est assez facile à énoncer », tout le monde est d'accord pour dire justement, comme on le mentionnait précédemment, ça serait bien d'avoir des transports électriques. Ou majoritairement hybride ou majoritairement électrique. Mais si on n'est pas prêt à gérer et à accepter le coût supplémentaire que ça peut amener, du moins dans les premières années, ça devient problématique. Donc, quelle approche utiliser? Est-ce que c'est un peu comme ils font en France, un bonus-malus? C'est-à-dire, si j'achète une voiture à essence qui consomme beaucoup, j'ai un surplus à payer, une taxe à payer. Si j'achète une voiture qui consomme très peu ou qui est électrique, j'ai une ristourne sur mon achat. Ça peut être une solution. C'est l'idée du consommateur payeur, en fait, l'utilisateur payeur. Ça peut être une des solutions qui vont être amenées lors de la consultation. Mais c'est des programmes qui sont assez classiques. Je donne un exemple facile.
On pousse pas l'exemple jusqu'à comment est-ce qu'on revoit la structure de nos cités et de nos endroits de vie pour finalement avoir moins besoin de la voiture électrique.
En fait, oui et non. Dans le document de consultation, on parle de l'aménagement du territoire. Ouais. Évidemment, la première pensée qu'on peut avoir dans l'idée d'aménagement du territoire, c'est comment faire cohabiter, par exemple, l'exploitation du gaz de schiste avec les populations.
Ouais.
C'est ce qui a occupé le débat médiatique sur la question dans la dernière année, je dirais. Mais ça veut dire aussi comment aménager nos villes. Comment faire des éco-quartiers, par exemple, où l'utilisation de la voiture est moins présente, où on a moins besoin de se déplacer en voiture, comment améliorer le transport en commun, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là peuvent être amenés lors de la consultation et peuvent être proposés soit par les citoyens, les entreprises, etc. Oui. Par contre, il y a un élément fort, un peu contre-intuitif, je dirais, c'est que il y a certaines études qui sont sorties, et là, je ne me souviens pas, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles études, mais dans les revues de presse que je lis, c'est tombé sous mes yeux un jour. Ils ont découvert que les éco-quartiers n'étaient pas forcément une bonne solution.
Ah.
Et ça, c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent dans les éco-quartiers n'ont pas de voiture.
Ouais.
Ce qui fait qu'ils restent il reste une disponibilité financière à faire autre chose. Et souvent, le autre chose, c'est aller prendre l'avion pour aller en vacances à l'extérieur. Donc, Dans certains cas, ça peut arriver à une augmentation des gaz à effet de serre par le citoyen, puisque...
Il faudrait qu'ils compensent, en fait, leur...
En plus, leur déplacement, voilà. Donc, il n'y a pas de solution simple là-dedans. Il n'y a rien de blanc et noir. On est beaucoup dans le gris et dans différentes tonalités de gris.
Bien. On va déjà faire une petite pause. On va écouter du Brel.
Ah ben voilà.
Voilà, un mélange de tango flamand, on va dire. Voilà, c'est parti.
Les flamands faisaient du tango.
Les soirs où je suis argentin, je m'offre quelques argentines, quitte à cueillir dans les vitrines des jolis quartiers d'Amsterdam, des lianes qui auraient ce teint de femme qu'exportent vos cités latines. Ces soirs-là, je les veux félines, avec un rien de brillantine collé aux cheveux de la langue. Elles seraient fraîches comme des mangues et compenseraient leur maladresse à coups de poitrine et de fesses. Mais ce soir, y a pas d'Argentine, y a pas d'espoir, et y a pas de doute. Non, ce soir, il pleut sur Knock le Zout. Ce soir, comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Les soirs où je suis espagnole, petite fesse, grande bagnole, elle passe tout à la casserole. Quitte à pourchasser d'Hambourg les Carmencitas de Faubourg qui nous reviennent de Vérole. Je me les veux fraîches et joyeuses, bonnes travailleuses, sans parlotte, mi-andalouse, mi-onduleuse. De ces femelles qu'on gestapote parce qu'elles ne savent pas encore que Franco est tout à fait mort. Ce soir, y a pas d'espagnol, y a pas de casserole, y a pas de doute, non. Ce soir, pleut sur Knock le Zout. Ce soir, comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Les soirs où je suis Caracas, je Panama, je Partagas, je suis le plus beau, je pars en chasse. Je glisse de palace en palace pour y dénicher le gros lot qui n'attend que mon coup de grâce. Je la veux folle comme un travelot, découverte de vieux rideaux, mais cependant évanescente. Elle m'attendrait depuis toujours, cerclée de serpents et de plantes, parmi les livres de Duto. Mais ce soir, y a pas de Caracas, y a pas de Tévenaissante, y a pas de doute, non. Ce soir, il pleut sur Knock le Zout. Ce soir, comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Oui. Demain, oui, peut-être que. Peut-être que demain je serai argentin. Oui, je m'offrirai des argentines, quitte à cueillir dans les vitrines des jolis quartiers d'Amsterdam, des lianes qui auraient ce teint de femme qu'exportent vos cités latines. Demain, je les voudrais félines, avec ce rien de brillantine collé aux cheveux de la langue. Elles seront fraîches comme des mangues et compenseront leur maladresse à coups de poitrine et de fesses. Demain, je serai espagnole, petite fesse, grande bagnole. Elles passeront toutes à la casserole, quitte à pourchasser d'Hambourg des Carmencitas de Faubourg qui nous reviendront de Vérole. Oh, je les voudrais fraîches et joyeuses, bonnes travailleuses sans parlotte, mi-andalouses, mi-onduleuses. que ces femelles conquestapotent, parce qu'elles ne savent pas encore que Franco est tout à fait mort. Laisse-moi que je suis Caracas, que Panama, je suis Spartagas, je suis le plus beau, je pars en chasse. Je glisse de palace en palace pour y dénicher le gros lot qui n'attend que mon coup de grâce. Je la veux folle comme un travelot, découverte de vieux rideaux, mais cependant dévanescente. Elle m'attendrait depuis toujours, cerclée de serpents et de plantes, parmi les livres de détour.
On est de retour sur Troisième Planète, sur CKIVA 88.3, avec Jacques Blanchet, et on parle de la consultation sur la politique énergétique du Québec. On a parlé de ce document, qui sont les bases sur lesquelles repose le débat, finalement, qui lance le débat. C'est une méthode de consultation, est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce qu'il en existe d'autres?
En fait, oui, il existe plusieurs façons d'intervenir dans ce type de débat-là. Pour l'instant, c'est la méthode adoptée par le gouvernement et c'est souvent la méthode plutôt classique au Québec.
Ouais.
Évidemment, si on compare à d'autres dossiers, par exemple, comme ce qui est en train de se passer avec le cours d'histoire du Québec, qui je dis pas que c'est le même type d'enjeu, mais c'est un autre type de consultation du gouvernement, on pourrait dire. Le gouvernement avait décidé d'avoir une commission parlementaire sur le sujet pour finalement la terminer et demander un rapport d'expert. Donc, c'est un autre type de consultation. Mm-hmm. C'est une consultation d'experts uniquement qui vont faire leurs recommandations au gouvernement et le gouvernement va décider. Dans le cas des enjeux énergétiques, évidemment, qui prend peut-être un peu plus de place dans le débat médiatique et dans le débat public et dont les répercussions, les impacts sont beaucoup plus larges, cela dit, sans discriminer du tout et sans enlever d'importance au cours d'histoire du Québec, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, le gouvernement a choisi de faire une consultation comme ça, itinérante, donc se déplace un peu partout au Québec, qui est beaucoup la façon de travailler du BAP aussi. Du Bureau d'audience publique en environnement, lorsqu'on fait des documents génériques, lorsqu'on vient, par exemple, cerner un enjeu. On a fait cette consultation-là, je pense déjà sur l'énergie au Québec. On l'a fait sur les gestions des matières résiduelles il y a très longtemps. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est quand même assez volumineux comme type de démarche. Évidemment, on parlait tout à l'heure de ce qu'ils faisaient en France. La France, eux, dans le débat qu'ils ont amené en environnement particulièrement, ils ont travaillé à partir de Grenelle. Ben, les Grenelles avaient une façon différente de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de document de consultation, c'est que tout venait de la base et a remonté tranquillement vers la partie législative du gouvernement. Ce qui a provoqué un peu de façon tordue, c'est que presque tout a été bloqué, rendu au côté législatif du gouvernement.
Finalement, il y avait trop d'éléments.
Il y avait trop d'éléments, effectivement. C'était trop disparate. Donc, il faut qu'il y ait un filtre à un certain moment, qu'il soit avant ou après, mais il faut qu'il y ait un filtre pour être capable de prendre des décisions. Parce que si on va dans toutes les directions, ça ne sert plus à rien. Maintenant, un élément, si on voulait aller plus loin dans la participation publique à l'élaboration de politiques, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de prendre peut-être les 5, 10 ou 15 mémoires les plus pertinents sur les points qu'ils voulaient traiter.
Puis d'approfondir à partir de là.
Mais de prendre ces gens-là et de les amener à la table d'élaboration de la politique.
D'accord.
Et donc là, ça devient plus, ce n'est plus seulement le gouvernement qui prend des recommandations et qui peut en disposer comme il le veut, les refuser, les retenir ou peu importe, mais c'est aussi de faire participer la population et les individus à l'élaboration de la politique. Évidemment, avec des gens spécialisés en élaboration de politique du gouvernement, donc une partie gouvernementale très importante, mais une participation publique beaucoup plus forte dans l'élaboration même du document, de la politique. Et ça prendrait déjà un autre niveau. On serait déjà plutôt presque dans un principe de co-création. Et là, ça devient assez dynamique comme système. Je ne pense pas que le gouvernement aille jusque-là, mais ça serait un élément intéressant si on voulait amener la participation citoyenne plus loin dans le débat public.
On pourrait aussi imaginer un système un peu hybride, c'est-à-dire une première partie de consultation des experts, et puis une deuxième partie de consultation publique. Je crois que ce qui s'est fait en France dans le débat sur la transition énergétique,
tout à fait.
Qui était plus sur ce format-là. Là.
Mm-hmm. Et c'est aussi ce qu'on a fait au Québec pour la loi sur le développement durable.
D'accord.
Où il y a eu un mélange de consultations publiques et de commissions parlementaires sur invitation d'experts. Et ça, c'est sûr que ça fait des processus beaucoup plus longs, mais les résultats sont probants. On peut le voir, la loi sur le développement durable a été adoptée à l'unanimité en 2006, ce qui est quand même assez impressionnant, à l'unanimité à l'Assemblée nationale, tout parti confondu. C'est quand même assez historique. Il y a que deux lois au Québec qui ont été adoptées à l'unanimité, c'est la loi sur l'administration publique et la loi sur le développement durable. Donc, c'est quand même majeur. Ce qui fait que, à construire comme ça des documents qui sont... plus on fait participer la population et les experts, plus on a des chances d'avoir un consensus qui soit accepté de tous et qui fasse consensus, bien sûr.
Ouais. On l'a dit, le document, dans sa description puis dans le contenu, c'est assez, un contenu assez général, global, sur la situation de la province du Québec, mais on sait que la province du Québec, c'est des villes avec des enjeux énergétiques finalement très différents. Mmh. Et puis, comme on sait, la décentralisation de la production est un enjeu de la politique énergétique. On peut se demander pourquoi il n'y a pas plus, je dirais, de volets plus régionaux, plus locaux.
Mmh. Avec les consultations, ils vont peut-être, étant donné qu'ils vont dans la plupart ou presque toutes les régions du Québec, ils devraient être capables d'identifier certains éléments des enjeux régionaux. C'est sûr qu'on peut imaginer qu'en Gaspésie, ça va parler essentiellement de gaz de schiste et d'éolien. Ce qui est tout à fait normal, hein, cela dit. Mais il peut y avoir d'autres idées aussi qui viennent de là. Mais évidemment, c'est une politique pour l'ensemble du Québec. Donc, il faut que ça soit applicable à l'ensemble du Québec. Par contre, ça peut se moduler de façon différente. Par exemple, mettons que la politique dise, ben, on va cibler certaines régions qui sont plus propices au développement de l'hydrocarbures, à l'approvisionnement en hydrocarbures. Ces régions-là peuvent être ciblées comme étant potentiellement intéressantes, mais ça peut être les municipalités qui décident des modalités d'application de cette politique-là sur leur territoire. Donc, il peut y avoir des modulations. La politique va être un document qui est très général. Ça sera pas très précis comme document. C'est dans la stratégie, c'est dans les documents qui vont suivre après ça qu'on va pouvoir être capable d'identifier vraiment les actions qui vont être mises en place. Mais ça, il va peut-être avoir une consultation, une commission parlementaire sur la stratégie énergétique éventuellement. Celle qui est là actuellement se termine en 2015. Donc, on peut imaginer que lorsque la politique va être déposée l'année prochaine, en 2014, il va y avoir une consultation, une commission parlementaire sur l'élaboration de la stratégie énergétique du Québec.
D'ailleurs, une municipalité peut déposer un mémoire en tant que municipalité?
Tout à fait. Et je suis convaincu que beaucoup de municipalités vont le faire. dans la plupart des municipalités au Québec, en fait, dans beaucoup de municipalités au Québec, il y a des enjeux très importants. Ils ont vu les entreprises de gaz de schiste se promener sur leurs terres. Ils ont vu. Donc, ça a créé beaucoup d'inquiétudes, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je pense que les gens vont réagir beaucoup à ça.
La période de consultation, donc on l'a dit, se clôt. Il y a la date du 9, puis il y a la date du 11, mais globalement c'est mi-octobre.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qui va se passer après?
Après, évidemment, la commission va faire son rapport. Donc, je ne sais pas combien de mémoires vont être déposées. Si on regarde avec ce qui s'est passé avec la commission Pronovo, entre autres, qui était sur l'alimentation au Québec. Je ne me souviens plus du terme exact du rapport.
L'avenir de l'agriculture au Québec.
L'avenir de l'agriculture au Québec. Ouais. Il y a eu 720 mémoires qui ont été déposées et présentées. C'est énorme.
Ouais.
Donc, si on peut imaginer
travail de synthèse, hein?
Une dizaine de pages facilement par mémoire, dont certains sûrement une centaine de pages, c'est quand même beaucoup de travail à rassembler toute cette information-là, la trier, la digérer et être capable d'avoir des recommandations. Donc, on peut supposer, vu l'intérêt médiatique qu'il y a eu et l'intérêt public qu'il y a eu dans les deux dernières années, on pourrait dire, pour les enjeux énergétiques au Québec, on peut s'attendre à avoir quand même beaucoup de mémoires qui vont être déposées. Maintenant, une fois que le rapport est fait, le gouvernement fait ce qu'il veut des recommandations. Il n'est pas obligé de les suivre. Il peut les rejeter en bloc. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça, bien sûr. Ou peut s'organiser pour tabletter le rapport. On a déjà vu ça par le passé. On parle de la commission Pronovo, le rapport sur l'avenir de l'agriculture. Ce rapport-là a été profondément tabletté. Et pourtant, c'est une mine d'informations incroyable. Il y a des idées là-dedans qui se sont... Il y a vraiment des perles qui ont été sorties dans ce travail-là. Et on n'a plus jamais entendu parler. Le gouvernement péquiste a lancé la politique de souveraineté alimentaire qui est... Je dirais qu'il est un ersatz de ce qui était proposé dans la commission Pronovo.
C'est ce que nous a dit la coopérative des Grands Ronds, qui est juste à côté.
Exactement, exactement. Et pourtant, ce rapport-là, c'est incroyable ce qui est sorti de ça. C'est un magnifique travail de consultation et de synthèse des enjeux et des idées au Québec qu'on a sur l'avenir de l'agriculture. Et ça a été mis sur la tablette, puis on n'a plus jamais entendu parler. Et le dernier gouvernement n'a pas été sorti, selon moi, pour cet enjeu-là. Donc, on peut voir l'influence que ça a. C'est embêtant. C'est embêtant. On ne sait pas ce qui vient après.
On n'en a pas encore parlé, mais le rôle des médias aussi dans le débat. On s'attend à une couverture du débat par les médias, ou est-ce que c'est un sujet trop complexe pour que...
C'est une excellente question. Ça dépend. D'après moi, ça dépend de ce qui va se passer autre dans l'actualité.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr que couvrir une assemblée publique où tout le monde discute de façon un peu de manière bon enfant, c'est pas très médiatique.
Non. Hein?
Ça passe une fois, mais trois soirs en ligne, ça passe pas. Donc, s'il y a pas de coup d'éclat, s'il y a pas de coulage, de coup d'éclat qui va arriver, de gens qui vont dire, ben moi, quand je vais présenter mon mémoire, je vais faire scandale. Il y a peu de chances que ça soit couvert de façon très bien durant tout le temps des séances. Évidemment, régionalement, ça va être couvert, normalement. Mais de manière nationale, d'après moi, ça va être chambranlant, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça va aller avec l'humeur et les autres actualités qu'il va y avoir sur le terrain. Et le niveau de conflits qui peuvent être causés durant les séances publiques.
Oui, est-ce qu'on aurait pu imaginer au final que l'un des mandats aussi de la commission, ça aurait été la partie d'information aussi du public, et qu'ils auraient pu avoir un mandat de communication justement vis-à-vis de la presse, ou de faire un débat justement télévisé peut-être, d'explication, de pédagogie, pour préparer la population à la consultation publique.
Effectivement, ça aurait été une très bonne idée. Puis je pense que c'est... évidemment, là, il est un peu tard pour le faire, mais les médias, s'ils veulent être proactifs, pourraient demander à des intervenants de venir faire des tables rondes et discuter de ces sujets-là lorsque ça se déplace en région ou que ça vient dans les plus grandes villes. Ça serait tout à fait pertinent. Il y a un élément fort intéressant. Donc, on disait, ça prend le document de consultation, il faut avoir quand même une vision. Cette vision-là est un peu imposée par le gouvernement, mais en même temps, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait partie des tendances générales. Un exemple, aujourd'hui est sorti les résultats de l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde. Qui, vous le savez, est un rassemblement de jeunes de moins de 35 ans en général, si je me souviens bien, qui discutent des enjeux de société, qui passent plusieurs jours ensemble à élaborer et à faire des recommandations et à faire des propositions pour l'avenir de la société québécoise. Alors, je suis allé voir ça aujourd'hui et j'ai trouvé ça fort intéressant. Dans le volet environnemental des propositions qui ont été faites, dans les 50 propositions, dans le volet environnemental, on retrouve les suivantes. Réduisons l'empreinte écologique anthropique. Donc, réduire l'empreinte écologique causée par l'humain. On n'est pas loin de réduire les gaz à effet de serre. Émancipons-nous de notre dépendance aux combustibles fossiles. Donnons-nous une véritable politique de gestion des ressources en eau, qui est fort intéressant dans un débat sur le gaz de schiste. On l'a vu à Gaspé,
même sur l'énergie aussi.
Et sur l'énergie, l'hydroélectricité, exactement. Donnons-nous des villes à échelle humaine, donc aménagement du territoire. Donnons-nous une politique cadre sur les évaluations environnementales stratégiques. Donc, pour des différents types d'énergie, est-ce qu'on ne devrait pas justement avoir une politique cadre qui va venir évaluer les impacts de ces travaux-là? Formons des citoyens éco-responsables, efficacité énergétique, comportement dont on parlait tout à l'heure. Tentons de ralentir les changements climatiques, réduction des gaz à effet de serre, et électrifions nos transports. Donc, on peut voir que ces jeunes-là sont allés exactement, ou à peu de choses près, dans la direction que le gouvernement... amène les documents de consultation. Donc, là où le gouvernement veut amener les citoyens, les entreprises dans la discussion et dans la consultation publique sur les enjeux énergétiques. Donc, ça, c'est assez intéressant, puisqu'on voit qu'il y a vraiment un mouvement sociétal qui est en train de s'imprimer sur la volonté qu'on a de le faire. Maintenant, Le diable est dans les détails. Comment on le fait? Et tout l'enjeu est là. Et c'est ça qu'il faut amener en tant que citoyen lors des consultations publiques. Si on a des idées, si les gens qui nous écoutent ont des idées pour mettre ces choses-là en place, il faut aller les dire, il faut aller les présenter. Et si j'ai une suggestion, par exemple, à faire aux citoyens qui veulent aller déposer un mémoire ou aller intervenir dans les séances publiques, il ne faut pas s'éparpiller dans et aller par exemple, critiquer ou proposer des solutions pour tous les enjeux.
Oui.
Ciblez-en un qui vous intéresse et qui vous accroche particulièrement et, j'allais dire en bon québécois, tapez sur le clou. Donc, proposez une, deux, trois solutions pour un enjeu en particulier. Vous avez plus de chances d'être entendu, d'être reconnu et que votre discours porte aussi. Après ça, lorsque c'est amené dans les recommandations. Donc, si en tant que citoyen, on veut participer à ce débat-là, il faut vraiment cibler un élément et taper dessus jusqu'à temps que ça fonctionne.
Alors, j'ai pas fait mes devoirs. Je suis pas allée regarder quand est-ce qu'à Québec, on...
Si je me souviens bien, c'est le 29 septembre et le 30... 29 et 30 septembre que ça vient à Québec.
Bon.
Je crois.
Donc... De toute façon, on va mettre en ligne sur le Facebook, on va faire un post et puis le lien vers le site consultation énergie et vous pourrez voir où est-ce que vous pourrez contribuer à cette consultation. On va en terminer là. Je remercie Jacques pour cette entrevue.
Ça fait plaisir.
Et puis Michel pour la mise en onde. On va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parlerai des portes ouvertes du Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, qui pour la première fois va ouvrir ses portes avec un programme d'animation culturelle et environnementale pour toute la famille. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine à 17h sur CKIA 88.3. Merci beaucoup, au revoir. Just one.